journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission, le journal des auditeurs, l'émission où vous avez la parole. J'espère que vous allez bien, nous sommes vendredi et comme chaque vendredi, c'est donc la libre antenne dans le journal des auditeurs. C'est vous qui choisissez les sujets sur lesquels vous souhaitez vous exprimer, c'est vous qui faites le sommaire. Nous attendons notamment vos analyses et commentaires sur l'actualité de cette semaine, par exemple le Gabon, où les spéculations vont bon train sur la santé du président Ali Bongo, ou encore la visite rapide du ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian à Bangui. Vous pourrez réagir aussi à l'actualité au Mali avec la fin de la grève des magistrats. Pour intervenir, vous exprimer sur les sujets de votre choix, composez dès maintenant le 01 55 07 58 00, 01 55 07 58 00. Avant de vous écouter en direct, on se tourne sans plus tarder vers le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter une sélection de vos messages.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Bonjour, j'interviens pour la démission de Monseigneur Mosengo. Suite à l'injustice des assassinats perpétrés par le régime de Joseph Kabila en République démocratique du Congo, suite à au silence de la communauté internationale, les prêtres catholiques sont tués à Beni, à Kisangani, partout. Et le massacre, tu parles bien de massacre des peuples congolais par Joseph Kabila, d'origine rwandaise, qu'on connaît bien son origine, les soldats rwandais qui massacrent des prêtres catholiques, pas de liberté en République démocratique du Congo, ils ne respectent même pas le religieux. C'est ça qui a poussé Laurent Mosengo à démissionner. La différence, le Vatican n'intervient pas, personne qui intervient. Suite à cette injustice, le prêtre ne peut pas supporter ça. Merci.
Oui, bonjour. Écoute, j'appelle pour un problème incompréhensible. Comment le parti de PDCI de M. Conan Bédier se permet à prendre des avocats français pour une affaire locale? Je suis vraiment étonné. Il n'y a plus d'avocats juridiques en Côte d'Ivoire. C'est vraiment honteux pour une grande partie comme le PDCI qui se permet à prendre des avocats français pour une affaire locale. C'est, vraiment, je suis complètement dépassé là. Hein? Il y a des avocats ivoiriens, il y a des grands avocats ivoiriens qui peuvent prendre pour défendre le dossier interne local. Pourquoi aller prendre des avocats européens ou français pour défendre des dossiers locaux? Enfin. Ça montre le visage du PDC.
Allô, bonjour, cher ami du GDA. Bonjour, la famille GDA. Aujourd'hui, mon message, spécialement, s'adresse au cadre du RDA, du parti au pouvoir en Côte d'Ivoire. Je dis bien au cadre du RDA. Je voudrais rappeler un peu au cadre du RDA. Pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant? Parce qu'aujourd'hui, si vous occupez les 5 postes, les 4 postes en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est grâce à nous les jeunes. C'est grâce à la jeunesse qui a donné sa poitrine pour vous. C'est grâce à la jeunesse qui a donné son cœur pour le docteur Alassane Dramane Ouattara. Bon, aujourd'hui, je vois cet cadre qui se prend aujourd'hui comme tout permis. Mais je vous dis que n'oubliez pas le passé. Parce que c'est nous la jeunesse, c'est nous les jeunes du RDA qui avons dormi devant la résidence du RDA, devant la résidence du président Alassane Ouattara. Vous étiez où à ce moment? C'était où à ce moment? Mais je vous dis, continuez, 2020 n'est pas loin.
Bonjour. L'être humain, avec la satanée intelligence que lui a attribuée l'évolution des espèces, est en train de détruire la nature et ainsi de remettre en cause sa propre existence sur Terre. C'est au dernier venu l'homme de s'adapter à la nature, pas l'inverse. Et la nature est plus forte que lui et le sera toujours. Si les écologistes européens veulent avoir une influence quelconque sur notre monde, ils doivent d'abord convaincre ce pays climato-sceptique qu'est les États-Unis, à l'image de son dirigeant, le président Trump, paranoïaque et fou. Car qu'il le veuille ou pas, ce pays influence et influencera tous les autres. Car les États-Unis sont faits d'une minorité de gens les plus instruits et les plus intelligents du monde. Entre parenthèses, n'ont-ils pas, par exemple, inventé récemment Internet? Cette minorité est noyée dans une masse d'individus anxieux et ultra-communautarisés, dotés de conceptions archaïques, voire bibliques du monde. Et croyez-moi, ces gens-là abandonneront difficilement leur mode de vie irresponsable, car ultra-matérialiste et gaspilleur de ressources pourtant limitées de notre planète. Merci.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le JDA en composant le 01 55 07 58 00. Un petit coup d'œil du côté du standard. On va revenir dans quelques instants sur les élections locales en Côte d'Ivoire, parler de la transhumance, revenir aussi parler des 4 ans de l'insurrection, c'est au Burkina Faso. Avant cela, on va écouter Serge qui voulait revenir sur le Gabon et cette rafle du PDG concernant les élections législatives. Serge, bonjour.
Oui, bonjour madame.
Bienvenue dans le journal des auditeurs. Alors, on vous écoute, vous êtes surpris par cette victoire du PDG ?
Surpris, non, mais je suis plutôt surpris par le triomphalisme que semblait manifester le représentant du PDG lors de votre dernière émission. Parce que pour l'histoire, tout le monde sait que depuis 50 ans, il n'y a jamais eu un premier ministre de l'opposition, donc il n'y a jamais eu de contestation. Le PDG règne au Gabon sans partage. Et lorsque l'on regarde ce qui a été fait en 50 ans par le PDG, je me dis aujourd'hui, le représentant du PDG et l'ensemble du PDG devraient plutôt se cacher et pas afficher l'optimisme qu'il semblait afficher la dernière fois.
C'est vrai, hein, plutôt que notre invité, c'était Fred Maïssa, un représentant du Parti démocratique gabonais en France, se réjouissait effectivement de la victoire du PDG aux élections législatives. Je trouvais ça normal, une façon de tourner la page de la présidentielle. Serge, un petit mot peut-être sur l'état de santé d'Ali Bongo. Qu'en pensez-vous, ce temps de mystère autour de sa santé ?
Personnellement, je pense qu'il est décédé. Bon, maintenant, il faut que la France et ses valets trouvent son remplaçant. C'est tout.
Merci Serge de votre contribution à ce journal des auditeurs, d'avoir inauguré cette libre antenne. Bonne journée Serge.
Merci.
Merci à vous. Au revoir. Pour l'instant, selon la présidence gabonaise, Ali Bongo souffre d'une fatigue sévère. D'autres médias, Reuters parle d'un AVC et la lettre du continent a évoqué un œdème cérébral. On continue cette libre antenne avec Irène. Irène, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Irène, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous vouliez intervenir dans la semaine concernant les élections locales en Côte d'Ivoire. Vous vous dites tout ne s'est pas bien passé et vous vouliez revenir sur notamment l'élection d'Ahmed Bakayoko à Bobo.
C'est cela.
Ambak, comme on l'appelle maintenant.
Voilà. Je vous remercie, je salue tous les Africains. Moi, je trouve ça un peu ridicule. Les gens qui... En tant qu'on dit qu'ils étaient démocrates, qu'ils sont venus au pouvoir des âmes, qui continuent toujours à massacrer les Ivoiriens, et ils ne savent même pas où, à qui il faut s'adresser. Ahmed Bakayoko, il n'est pas élu comme ça, On vient tous d'Abidjan. On est tous des Ivoiriens. Il n'y a que des, excusez-moi du terme, il n'y a que des étrangers, Parce que quand tu dis des choses comme chez toi, les gens pensent que tu es raciste. Il n'y a que des étrangers qui peuvent passer sur cette chaîne qui peuvent dire que tout va bien en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Nous, on vit ici, on se lève à 4h du matin pour aller gratter chez les gens, pour envoyer de l'argent à nos parents pour manger. Vous voyez? Et un mec comme ça, un assassin comme ça qui a assassiné des gens à Boaké, c'est tous les clics qui sont là au pouvoir qui ont assassiné les Ivoiriens à Boaké. Ils sont là. Mais, ma soeur, la roue tourne. Ils veulent la paix. En même temps, ils continuent toujours à assassiner les Ivoiriens. Vous voyez? Et on dit, c'est lui l'homme fort. Donc, je vais dire à ceux qui disent que l'homme fort, là, ceux-là, c'est pas des vrais Ivoiriens. Tu vois? L'homme noir, même quand il dit, viens t'asseoir ici, nous sommes des frères, c'est ceux-là qui deviennent ton assassin. Je vous remercie.
Merci, Irène. Le message est passé. Irène, faisait état de la situation en Côte d'Ivoire, Irène, pour qui la réconciliation est loin d'être acquise. Merci Irène de votre contribution à cette libre antenne 01 55 07 58 00. C'est le numéro pour participer au JDA. On va écouter Ibrahim. Ibrahim, bonjour.
Bonjour Madame Stéphanie Hartmann. Bonjour les auditeurs.
Bonjour Monsieur.
Vous m'entendez bien?
Très très bien. La ligne est parfaite, Ibrahim. Vous vouliez nous parler, vous faire un petit bilan des 4 ans de l'insurrection au Burkina Faso. C'était le 31 octobre 2014, insurrection qui a chassé le président Blaise Compaoré.
Tout à fait, parce que ça fait sujet à polémique en ce moment au Burkina et ailleurs. On veut nous faire regretter Blaise Compaoré. Moi, je dirais que non, le bilan il est positif, même si c'est plus ou moins mitigé, il est positif. Alors, je dis ça pourquoi? Regardez sur le plan de la liberté de la presse. Selon le rapport de Reporters sans frontières, le Burkina Faso est classé 41e sur 181 pays. Alors qu'en 2014, au moment où fuyait Blaise Compaoré, on était classé 52e. Vous voyez, c'est quand même une avancée considérable. Personne ne risque de laisser sa vie pour avoir critiqué le régime en place aujourd'hui. Et on n'entend presque plus les bavures policières, gendarmes, tout ça. Alors qu'avant, c'était monnaie courante. Donc, moi, je peux dire que c'est positif. Mais d'aucuns diront que voilà, mais le panier de ménagère est vide. Oui, mais c'est un terme pour moi économique et subjectif. Parce que quand vous regardez selon les économistes, ils disent que le Burkina a connu une croissance de 6%. Mais ça suffit pas. Parce que c'est le cas pour tous les pays africains en ce moment. Ça suffit pas. Ils disent que le panier de ménagère est vide. Mais moi, je dirais, ça a toujours été vide pour certains. Ok, actuel vide maintenant pour d'autres, toujours rempli pour certains, pour d'autres aussi. Ok, donc pour moi, je pense que ces termes-là ne s'y est pas du tout et qu'il faut regarder de l'avant et il faut se dire que 4 ans quand même c'est peu quoi pour amener un changement aussi qualitatif.
Donc, mais tout à un bilan globalement positif quand même, Ibrahim, vous.
Tout à fait. Le terrorisme, je termine, je vais pas monopoliser. Allez. Parce que bon, il y a eu trop de morts là, plus de 260 sous le règne de Roch et Kabore. Moi, je suis pas fan de Roch Kabore, je le dis, n'en déplaise à ceux qui pensent que peut-être non, je dis ça sincèrement. Oui, le terrorisme, avant que le régime actuel ne commence à gouverner, il n'y avait pas de terrorisme. Pourquoi maintenant? On va nous dire parce que les services de renseignement de Blaise étaient à la hauteur. Mais ça n'est pas vrai. Je les ai jamais vus faire un cas de bravoure, de haut fait de guerre pour qu'on dise que le RSP, régiment de sécurité présidentielle, était vraiment à la hauteur. Ce qui complique les choses, c'est que moi, j'ai pas de preuves, mais nous avons des indices sérieux que c'est les ténors de régime dessus qui ont orienté les terroristes vers notre pays. Sinon, pourquoi ils n'attaquent pas le Bénin? Le leitmotiv des terroristes d'islamiser le Burkina Faso, alors que mon pays compte 60% de musulmans. Alors que au Bénin, nous partons là où ils partent, la forêt dont ils partent, nous partageons cette forêt-là avec le Bénin. Pourquoi ils n'attaquent pas le Bénin, alors que le Bénin ne compte que 27-28% de musulmans? Faites-vous-en votre propre analyse. Sur ce, je voudrais juste vous remercier de m'avoir accordé la parole, quoi. Et merci à tous les auditeurs.
C'est votre émission, Ibrahim. Donc, l'antenne est à vous et merci à vous de nous avoir parlé un peu du Burkina Faso. Hein. On retient que voilà, difficile de changer les choses en 4 ans, mais que pour vous, il y a une certaine liberté, hein, vous avez parlé de la liberté de la presse, hein, des choses avaient changé. Merci beaucoup, Ibrahim. On reviendra sûrement peut-être la semaine prochaine, hein, sur l'actualité du Burkina Faso. On continue cette libre antenne. On va écouter Emmanuel. Bonjour, Emmanuel.
Voilà, c'est la première fois que j'ai intervenu.
Oui, bonjour Emmanuel, ça se voit. Votre fiche est verte, donc je vois que c'était la première fois que vous appelez. Bienvenue dans le JDA. Et vous vouliez revenir, hein, sur le président Ali Bongo et son image de leader, vous dites.
Non, ce n'est pas question des leaders. L'image qui sont véhiculées, comme les morts, comme ça, de négrier comme ça, avec l'image, on dirait c'est un chien, c'est pas quoi tout ça. Mais le problème, c'est que ce sont les enfants, et même les Africains. Il faut savoir, cet homme-là, il y a un père et une mère. Il y a la nation, il y a un peuple et tout ça. Ce sont tous ces Africains qui sont en train de dénigrer un homme qui est africain. Alors, imaginons que ce soit un blanc, des blancs européens de faire ça pour dénigrir un leader noir.
Qu'on comprenne bien, Emmanuel, vous êtes plutôt choqué hein, par les commentaires autour de la santé d'Ali Bongo, certains se réjouissant éventuellement de sa mauvaise santé. Vous, ça vous choque, ça?
Ça me choque, voilà. Ça me choque. J'ai créé des masques. Même Hitler, ma sœur, même Hitler ne l'a pas fait, ça. Même Hitler.
Il faut respecter la dignité humaine, c'est ça.
Pourquoi que les Africains sont comme ça? Pourquoi? C'est quand qu'il faut comprendre, laisser le pouvoir, les fortunes, l'argent à côté. D'abord, nous sommes des êtres humains. C'est triste de voir ça. C'est vraiment triste, triste, triste de voir ça. Vous croyez, avec sa mort, tout le monde au Gabon sera riche. Il n'y aura plus de c'est-à-dire, c'est la bonne santé. Il va avoir de l'école, il va avoir les pauvres, il va avoir de tout. Et Gabon, c'est un pays très petit, il est riche. Est-ce qu'ils vont faire des soins de tout le monde? C'est pas possible. Les Africains font ça, eux-mêmes, contre les Africains. Et qu'est-ce que les Blancs vont faire? Vont nous respecter?
C'est très clair. Le message est passé. Le coup de gueule est passé, Emmanuel. Merci. De votre appel. Et puis, n'hésitez pas à rappeler quand vous voulez, hein, cette émission est aussi la vôtre.
C'est pas gentil de faire ça. Nous respectons quand même le leader, franchement, quelles que soient les raisons. Soyez humains.
Votre message est passé, Emmanuel. Soyez humains, respectons les leaders, nous dit Emmanuel. Merci, Emmanuel. Bonne journée à vous. On continue cette libre antenne avec. On va revenir sur la Côte d'Ivoire avec Ahmed. Ahmed, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, comment ça va?
Bonjour Ahmed, ça va, on est là. Vous voulez revenir sur le sujet d'Alassane Ouattara et son travail pour la Côte d'Ivoire?
Oui Stéphanie, ouais, moi je trouve que le monsieur fait du bon travail, voilà. J'entends toujours des gens ouais, qui l'insultent voilà, sur la radio, qui disent toujours du n'importe quoi du monsieur. Franchement, le monsieur il fait du très bon boulot, à part Félix Houphouët-Boigny, notre premier président. Je ne vois pas qui a fait mieux que Alassane Ouattara. Franchement, je vois pas qui a fait mieux que ce monsieur-là. Mais bon, c'est comme ça. Quand on n'aime pas quelqu'un, on l'aime pas. Soit parce qu'il n'est pas du même ethnie que d'autres, soit parce qu'il n'est pas voilà, de la même parti politique que d'autres. Voilà, ils vont toujours le critiquer.
Il y a quand même des difficultés en Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas nier. Il y a des faits. Hein.
Maintenant, moi, si il y a un de ses représentants ou lui-même, s'il nous écoute, franchement, qu'il mette un peu l'accent sur la jeunesse. Voilà, qui mettent un peu l'accent sur la Genève par rapport à trouver du boulot, par rapport à comment on appelle ça, à faire reculer un tout petit peu la pauvreté. Voilà, c'est tout ce qu'on lui demande pour ces...
On avait un message hein, sur le répondeur. Hein.
Voilà, pour ces deux dernières années là et tout, là, voilà, qui se concentre vraiment sur la jeunesse, qui se concentre voilà, sur la pauvreté.
Mais quelle mesure vous aimeriez, Ahmed, pour la jeunesse? Une mesure concrète, non? Est-ce que vous pensez à une mesure concrète pour la jeunesse?
Oui, mais franchement, parce qu'il y a plein d'investisseurs qui rentrent au pays, il faudrait que Alassane Ouattara même se mette au devant pour que la jeunesse ait du boulot. Parce qu'il y a plein de diplômés au pays, plein, mais qui ne travaillent pas. Au pays, la vie est devenue très, très chère. Voilà, s'il peut combattre ces deux trucs-là, franchement, ouais. Moi, je pense que voilà, ces deux mandats, voilà, s'il a pu combattre ça, franchement, ces deux mandats sont réussis. Sinon, à part ça, franchement, voilà, le mec qui fait du bon boulot, à part quelques, voilà, forcément, c'est l'Afrique, il y a tout le temps des... Voilà,
des... Ça veut voilà. Dire quoi, Ahmed, c'est l'Afrique? Non, c'est-à-dire que les Africains, on doit pas avoir les mêmes exigences que les autres?
Non, c'est pas ça, Stéphanie. Vous savez que ça fait 50 ans que plein de pays africains ont la liberté et tout. Ça fait 50 ans, 60 ans que l'Afrique est l'Afrique. Donc, on ne peut pas nous demander des exigences au même plan que la France ou que les États-Unis. Ce n'est pas possible. Tu vois, nous, on part tout doucement. Donc, il y a plein de choses qu'on doit corriger. Il y a plein de choses. Voilà, mais c'est tout doucement. On ne va pas... Voilà.
Il faut laisser du temps, vous dites, Ahmed.
C'est ça.
Merci, c'est ça. Ahmed, de votre contribution à cette émission.
Je vous en prie, Stéphanie. Bon week-end à vous.
Bon week-end à vous aussi, Ahmed. Prenez soin de vous et des vôtres. Merci, Ahmed. Alors, vous êtes nombreux du côté du Standard. Il y a Claudel qui attend depuis un bout de temps. On va l'écouter. Il va y revenir sur le changement politique. Ensuite, on écoutera Joe sur le Cameroun. Et Philomène aussi voudrait revenir sur la Côte d'Ivoire. Claudel, bonjour. Ah, Claudel, vous êtes là?
Allô?
Oui, bonjour Claudel, oui, merci de votre patience.
Oui, bonjour Stéphanie, oui, bonjour.
Oui, alors
oui, en fait, je voulais vraiment revenir sur les valses de nos politiciens qui vont...
Alors, c'était le sujet d'hier, la transhumance en politique, c'était ça.
Voilà, tout à fait, voilà. C'est vraiment malheureux de le constater. Hein. C'est malheureux, quoi. C'est-à-dire que voilà des gens qui se lèvent, qui se présentent au peuple avec un programme d'après eux. Une fois élus, ils peuvent claquer du doigt et puis aller dans un autre parti politique qui a un autre programme opposé. Mmh. Voyez-vous comment des gens comme ceux-là se moquent, mais véritablement de la population, du peuple. Une élection locale, qu'elle soit locale ou régionale, on a un programme. Voilà, c'est-à-dire que des gens viennent devant un monde pour dire « voilà ce que je compte faire si une fois élu ». Mais la ministre qui suit une fois élu, à l'époque, il va dans un autre camp auquel il était opposé. C'est extraordinaire. Et malheureusement, on vient de le constater. Sinon, on le constate en Côte d'Ivoire, où des gens sont contents de montrer aux yeux du monde. J'ai vu une quarantaine ou soixantaine, ou je ne sais pas combien ils sont, qui font une photo de famille. Voilà, on est content, on rejoint le RHDP. Parce que si on n'y est pas, on ne pourra pas avoir... de quoi développer notre commune. Vous voyez, c'est malheureux, Stéphanie. Je ne sais pas si ces gens-là qui voient le monde, parce que le monde se développe.
Est-ce que vous pensez, Claudel, que face à ces transhumants, les électeurs, la prochaine fois, ils regarderont à deux fois? Est-ce que
justement, ça peut avoir une influence? On doit aller vers le peuple. C'est-à-dire que l'appel qu'on a lancé, c'est vers le peuple. Qu'on ne nous prenne pas pour des moutons, et à eux de réagir, de montrer que non, je ne peux pas t'élire aujourd'hui, vendredi, et puis demain matin, samedi, tu vas dans un autre camp comme ça, sans état d'âme. Vous voyez, Stéphanie, c'est ce qui est malheureux, et on le constate. Vous voyez, c'est au peuple de réagir, de montrer que ce n'est pas possible, ça ne doit pas continuer ainsi. Ça doit pas continuer. Et c'est à travers le continent que ça se passe. Oui, moi je peux comprendre que des partis politiques qui ont la même idéologie ou bien la même vision d'un peuple ou bien du développement de leur pays puissent à un moment donné s'accorder pour mettre en place un programme de gouvernement qu'ils puissent rejoindre à un deuxième tour, entre guillemets, mais pour des élections locales où on a une liste qui se présente, qui a un programme bien défini, et le lendemain, une fois élu, on va dans un autre camp. Et puis on est constant de le montrer, c'est se moquer du peuple. Et c'est au peuple de réagir. Moi, c'est cela, quoi.
C'est au peuple de réagir, vous nous dites, Claudel.
Juste à dépasser une parenthèse par rapport à notre cher ami qui vient de réagir par rapport au... C'est extraordinaire. Voilà quelqu'un qui dit tout se passe bien. Tout se passe bien. Il a fait un bon boulot. Et en même temps, il regrette que la jeunesse n'a pas de boulot. Vous voyez, c'est extraordinaire. On nous a fait... il faut aller voir dans la Méditerranée, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Ivoiriens, des jeunes gens qui meurent. Qu'est-ce qu'il entend par ce monsieur fait du bon boulot? Attention, il faut être réaliste. Voilà.
Le bilan n'est pas au rendez-vous. On aura l'occasion peut-être de faire, Claudel, le bilan de la présidence Ouattara d'ici. Ça va arriver vite, hein, 2020, c'est demain. Merci, Claudel. On a d'autres auditeurs qui veulent participer, notamment des auditeurs qu'on n'entend pas souvent. Joe, bonjour.
Oui, bonjour Stéphanie, comment vas-tu?
Bonjour Joe, ça va bien, on peut se tutoyer, hein. on est à la maison ici. Vous voulez revenir sur les élections au Cameroun? Vous êtes contre la réélection de Paul Biya?
Oui, mais bien sûr, enfin, c'est pas le problème, c'est pas contre sa réélection. Moi, le problème que je regrette vraiment, c'est la cupidité de nos hommes politiques en Afrique. Voilà une élection où le Cameroun avait la chance de pouvoir rentrer dans l'histoire, c'est-à-dire avec un seul candidat. Mais comme nos hommes politiques sont tellement cupides, chacun dans sa petite tête a cru que c'était son jour, c'était son moment pour être au pouvoir. Sauf que Paul Biya, ça fait plus de presque 40 ans qu'il est là. On ne démolit pas un arbre comme ça. Au lieu de se réunir derrière un seul candidat, ben ils sont allés en rang dispersé. Et ils ont, par de ce fait, donné encore une fois de plus l'occasion à Paul Biya. Moi, je ne suis pas Camerounais, hein, mais je pense que s'ils avaient pris un seul candidat, le candidat que moi, personnellement, je trouvais valable, hein, c'était Cabral Libi, par exemple. Parce que moi, le Cameroun, ces élections, c'est le seul parmi tous les candidats qui a su, on va dire, internationaliser cette élection-là. par les réseaux sociaux. Et si il y avait un, il y avait eu un combat entre Cabral Libi et Paul Biya, je pense que même psychologiquement, les gens allaient voter Cabral Libi. Non seulement parce qu'il est jeune, on allait bien voir qu'il y avait ce qu'on appelle le generation gap entre Paul Biya et Cabral Libi.
Le gap des générations, vous avez dit.
Voilà, voilà. Donc, ça allait déjà travailler l'esprit des gens et les gens allaient se rendre compte que le candidat idéal aurait été Cabral Libi. Bref. En plus, je voulais parler aussi de la transhumance politique. Mm. Je pense que ça, c'est une question de faiblesse de nos institutions. Ça, c'est son nécessaire. Tu ne peux pas passer du chaud au froid comme ça juste parce que tu es député ou bien tu es... Enfin, non, c'est pas possible. Tu as été élu par rapport à un programme d'un parti.
Donc, c'est aussi les limites de la démocratie importée, Joe. On évoquait tout à l'heure la décolonisation récente, aussi la mauvaise décolonisation.
Oui, mais ce sont les faiblesses de nos institutions. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez capable de réfléchir à un modèle de gouvernance. Nous, on ne fait que des copier-coller, sauf que ça ne marche pas partout. Ça ne marche pas partout. Et maintenant, il y a un monsieur qui parlait tout à l'heure de prendre le temps pour que l'avance... Oui, mais madame, ce monsieur, il ne comprend pas que le monde avance à grands pas. On n'est plus dans... On n'a plus le temps, là.
On n'a plus le temps d'attendre que nos institutions se consolident, vous nous dites.
Non, c'est pas possible. Il faut avancer avec le temps. Nos hommes politiques qui sont là actuellement, ils ont tous fait les mêmes études que les hommes politiques en Occident. Donc, ils ne sont pas plus idiots ou quoi que ce soit par rapport à eux. Non, ils ont le même niveau d'études. C'est juste qu'ils n'ont pas envie que les choses avancent. Prenez l'exemple d'un pays comme le Singapour. Le Singapour, il y a au moins 30 ans, c'était un pays pauvre. Mais comment ils ont fait pour arriver à ce niveau? Parce que les gens ont pris conscience qu'à un moment, on ne peut pas continuer à faire la même chose. Là, l'Afrique n'a plus le temps. L'Afrique a toutes les possibilités, tous les potentiels qu'il faut pour se développer. Ce sont les hommes politiques qui retardent cela parce que ce sont des gens cupides.
On peut noter aussi qu'en Asie, hein, des pays comme Singapour ont aussi investi massivement. Les gens qui avaient de l'argent l'ont investi à Singapour. Il serait peut-être bien aussi que les gens qui ont de l'argent en Afrique l'investissent localement au lieu de mettre ces argent sur des comptes à l'étranger. Voilà.
Mais ils ont investi pourquoi? Parce qu'il y a une bonne politique dans le pays. Mais s'il n'y a pas une bonne politique sociale, ils n'investiront pas en Afrique. Ce sont nos hommes politiques qui retardent l'avancée de l'Afrique. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la France, ce n'est pas les États-Unis. Non, c'est nous-mêmes. C'est à un moment, il faut vouloir qu'on nous-mêmes.
Merci, Joe.
Oui.
Merci à vous. Merci de votre contribution. On a bien compris votre point de vue, et même sur ces élections. Au Cameroun, alors on a remarqué que concernant les élections camerounaises, les analystes disent effectivement, voilà, Paul Biya a été réélu, mais quelque chose a changé au Cameroun. On aura peut-être également l'occasion d'en parler peut-être dans quelques instants avec Serge, il nous reste 4 minutes, mais il y a Christophe avant cela. Christophe, bonjour.
Oui, allô, bonjour Madame Stéphanie, comment ça va?
Ça va très bien, bonjour Christophe, bienvenue dans le journal des auditeurs. Vous souhaitiez parler de Gragbé Niagbé. Jeune étudiant mortellement blessé un 26 octobre 1970 à Gagnoa, en Côte d'Ivoire, c'est ça?
Voilà, c'est exact. Oui, en fait, je voudrais parler de Christophe Gragbé Niagbé au Pagé. C'était un des premiers opposants du régime de Félix Houphouët-Boigny. Il voulait, selon l'article 7 de la Côte d'Ivoire, il voulait présenter son parti politique. Et malheureusement, il n'a pas été accepté par le PDCI ou par Houphouët-Boigny. Et après la marche du 26 octobre 1970, il y a eu des milliers de morts les jours qui ont suivi en Côte d'Ivoire. Et on parle même de génocide. Et il y a beaucoup de témoignages. Et certains survivants indexent le régime de Félix Houphouët-Boigny et Houphouët-Boigny lui-même. Pour l'assassinat de Christophe Gragbé Niagbé, et jusqu'à présent, on réclame de savoir où est son corps.
Est-ce que on peut imaginer avoir des informations si on fouillait dans les archives de la présidence ivoirienne?
Oui, il y a beaucoup d'informations, mais c'est classé secret défense. Mmh. Mais comme ça fait 49 ans, donc je ne sais pas si maintenant on peut sortir ces informations-là, parce que l'année prochaine, ça va faire 50 ans maintenant.
C'est très clair. Merci, hein, Christophe, de nous avoir parlé de cet opposant décédé en 70. Militant du multipartisme, hein, si j'ai bien compris, Krak Beniakbe hein, voulait lancer, alors que c'était encore le parti unique hein, dans les années 70, hein, Krak Beniakbe voulait lancer le PANA, le Parti National Africain. Merci Christophe, j'avais évoqué le nom de Serge, on va écouter. Serge, bonjour.
Oui, bonjour Madame Stéphanie Hartmann.
Bonjour Monsieur Serge, je voulais revenir sur le Cameroun. Alors ce mouvement des anti-sardinards, qui sont les sardinards? C'est ceux qui mangent...
En fait, soi-disant...
Auprès de Paul Biya, c'est ça?
Oui, mais en fait, vous savez, ça se passe un peu partout. Hein. C'est-à-dire c'est des gens qui viennent souvent soit accueillir le président, soit assister à ces manifestations, et souvent ces gens-là, on leur donne des sardines histoire de les nourrir à la limite, parce que voilà, ils passent toute une journée. Bref, moi, je voudrais intervenir justement sur ce mouvement qui, pour moi, n'a pas lieu d'être. Tout simplement pourquoi? Parce que il est anormal pour des gens qui se disent démocrates, c'est-à-dire le camp des partisans de Monsieur Kamto, qui se disent qui veulent la démocratie au Cameroun et qui interdisent aux autres de faire leur métier tout simplement parce qu'ils ont une opinion différente que la leur. Je trouve que c'est inadmissible. Et ces gens-là, en fait, non seulement c'est inadmissible, je trouve aussi inadmissible le comportement de ce candidat qui, lui, dans l'ombre, ne dit rien du tout. Et vous savez aussi, Madame Stéphanie, je voudrais aussi vous dire une chose, c'est que dans le propre village du candidat Kamto, vous savez que le chef traditionnel de ce village, lui, il était pour le parti au pouvoir. Et le parti au pouvoir a gagné justement dans le village de M. Kamto. Et aujourd'hui, ce monsieur, il faut voir les appels sur les réseaux sociaux, comment on insulte ce chef traditionnel. Et là, vous avez
critiquez l'opposition. Serge, on arrive à la fin de l'émission, mais on a bien compris que hein, vous critiquez ce mouvement hein, des anti- Sardinard, merci à tous de votre participation. On n'a pas pu prendre Philomène, Diez, Paul. Je le rappelle, n'hésitez pas à vous inscrire pour les prochaines émissions si vous êtes disponible hein, pour nous faire part de vos analyses. Laissez vos coordonnées sur le répondeur au 01 55 07 58 05 01 55 07 58 05. C'est le principe de l'inscription, comme ça on est sûr de vous prendre. En attendant de vous retrouver lundi, je vous souhaite un excellent week-end à l'écoute des programmes d'Africa numéro 1, la seule, l'unique, la vraie radio africaine. À lundi.